un journal présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Un journal qui débutera justement à Hong Kong. Hong Kong où les interdictions de se rassembler ce soir en mémoire de Tiananmen sont contournées par des militants pro-démocratie. Reportage à suivre de Florence Dechangy.
La Banque Centrale Européenne rajoute 600 milliards d'euros à son plan d'aide spéciale pandémie. Ses rachats de dettes et d'obligations s'ajoutent au plan de 750 milliards déjà annoncé en mars. Nous verrons avec Marie Viennot quelles sont les raisons de cet abondement.
Et puis on comprendra également avec Marie Viennot comment ces annonces vont être bien utiles au gouvernement français pour boucler son budget 2020. Inquiétude au journal Le Parisien. Les salariés du quotidien s'inquiètent des conséquences de la crise, notamment sur l'emploi. Et puis nous reviendrons sur cette condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui dans la mort de la petite Marina qui aurait dû être protégée par l'État. C'est la conclusion de la Cour, précision de Margot Delpierre. Il y a précisément 31 ans aujourd'hui, le massacre de Tiananmen à Pékin mettait fin aux espoirs de changement portés notamment par une partie de la jeunesse chinoise. Ce 4 juin 1989 n'est évidemment toujours pas commémoré en Chine continentale, mais il l'est à Hong Kong, où les mouvements pro-démocratie ont pris l'habitude de se rassembler pour des veillées tous les 4 juin. Mais ce 31e anniversaire n'est pas comme les autres. La crise sanitaire liée au coronavirus a permis aux autorités hongkongaises, qui sont sur la ligne de Pékin, d'interdire les manifestations. Interdictions qui ont été largement contournées. Reportage de Florence Dechangy à Hong Kong.
Suite à l'interdiction de la veillée, les organisateurs avaient appelé les Hongkongais à marquer cet anniversaire de manière dispersée, par petits groupes ou simplement de chez eux en mettant une bougie à leur fenêtre ou en ligne, tout en indiquant que, pour leur part, ils se rendraient quand même à Victoria Park, puisque c'est vraiment là que, depuis 30 ans, la cérémonie a lieu. Et finalement, des milliers de Hongkongais ont fait comme eux. Du coup, cette année, il n'y avait ni estrade, ni déesse de la démocratie, pas de discours, ni d'écran géant comme d'habitude, mais la même foule, paisible et déterminée, et des milliers de petites flammes qui brillaient sous la pleine lune. Tony, un ingénieur de 42 ans, est venu avec 5 amis.
La motivation d'être ici est juste parce que nous avons beaucoup de...
Notre motivation pour venir ici, c'est... la colère que nous avons dans nos cœurs, par exemple à cause de nos politiciens qui penchent de plus en plus du côté de la Chine. Mais regardez autour de nous, on n'est même pas censé être là d'après la police. Et pourtant, combien sommes-nous à vouloir leur tenir tête? On ne se rendra jamais.
Une détermination à toute épreuve qui augure mal de l'ambition de Pékin de museler les Hongkongais.
Reportage de Florence Dechangy, et c'est ce jour particulier qu'a choisi le Parlement de Hong Kong, favorable à Pékin, pour adopter une loi sanctionnant toute marque d'irrespect envers l'hymne national chinois. La marche des volontaires doit désormais être respectée sous peine d'une condamnation pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison.
Nous reviendrons sur tous ces sujets dans le temps du débat d'ici 18h20. Notre titre, Chine bruit à l'ouest, attaque à l'est, avec 3 invités, Sébastien Weg, Stéphanie Balm et Lun Zhang.
Aux États-Unis, le mouvement de contestation contre les violences policières suite au meurtre de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis remue les symboles, et notamment dans le sud où les généraux confédérés des États ségrégationnistes, souvent encore célébrés, voient leur mémoire de plus en plus contestée. Grégory Phillips.
À Birmingham, Alabama, à Durham, Caroline du Nord et ailleurs, des manifestants ont donc déboulonné les statues de plusieurs généraux confédérés, héritage du passé esclavagiste et ségrégationniste de ces États du Sud. En Virginie, le gouverneur démocrate annonce le retrait de la statue de 4 mètres de haut du général Robert E. Lee qui trône au cœur de Richmond, la capitale de l'État. La statue était depuis 10 jours devenue le lieu de rassemblement des manifestants. Julian Maxwell-Hetter est historien, spécialiste de l'histoire afro-américaine et professeur associé à l'université de Richmond.
Pour beaucoup de gens, ces symboles représentent la continuation de la suprématie blanche. Pour beaucoup, ces statues sont l'image d'un système, celui de la ségrégation, qui a duré jusqu'au milieu du XXe siècle et qui a profondément influencé la suite de l'histoire avec les problèmes raciaux en Amérique. Mais plus important, les gens pensent que retirer ces statues des lieux publics permettra d'ouvrir le dialogue sur la réconciliation et les réparations.
Richmond, dont la population est majoritairement afro-américaine, est la ville qui, aux États-Unis, compte le plus de monuments confédérés. La statue du général Lee, installée en 1890, a été dégradée ces derniers jours, avec des graffitis réclamant notamment l'égalité entre les Noirs et les Blancs.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. En France, le traditionnel défilé militaire sur l'avenue des Champs-Élysées le 14 juillet n'aura pas lieu cette année pour la première fois depuis la libération de 1945. Le défilé sera remplacé par une cérémonie restreinte, place de la Concorde, cérémonie qui rendra hommage aux militaires et aux soignants mobilisés pendant la crise sanitaire du Covid-19. 2000 participants maximum et 2500 invités, pas plus, en respectant évidemment les mesures de distanciation physique. 600 milliards d'euros supplémentaires pour racheter obligations publiques et privées à l'échelle de la zone euro. Le plan d'urgence spécial pandémie de la BCE est quasiment doublé dans ses montants et il est prolongé dans son exécution pour courir finalement jusqu'à fin juin 2021. Au moins, l'annonce vient d'en être faite par la Banque Centrale Européenne. Bonsoir Marie Viennot. On va voir avec vous dans un instant comment cette décision de la BCE va aider la France à boucler son budget 2020. D'abord, Marie, cette question, pourquoi la BCE rajoute aujourd'hui 600 milliards aux 750 milliards d'euros qui avaient déjà été annoncés à la mi-mars ?
Et oui, on peut se poser la question car sur les 750 milliards d'euros annoncés en mars, un tiers a pour le moment été dépensé par la BCE en achat de titres de dette publique. Ce qui explique ces 600 milliards en plus, c'est donc d'abord le ralentissement économique, 8,7% de baisse du PIB prévu dans la zone euro en 2020. C'est une chute très importante. Il y a ensuite l'inflation. On l'estime à 0,3% en 2020, du fait notamment de la faiblesse des prix pétroliers. On est donc très loin de la cible d'inflation de la BCE qui est de 2% et reste d'ailleurs son seul mandat impérieux. Il était donc nécessaire, a expliqué Christine Lagarde, la présidente de la BCE, de soutenir encore les conditions de financement de l'économie réelle, entreprises et ménages, en mettant plus de milliards en circulation. L'autre raison, mais ça Christine Lagarde ne le dit pas aussi clairement, c'est qu'au rythme auquel la BCE achète les titres de dette publique de la zone euro, on aurait atteint les 750 milliards à la fin de l'été et qu'il fallait donc dès aujourd'hui rassurer les marchés financiers et les États de la zone euro qui font face à une baisse de leurs recettes et un surcroît de dépenses, que la BCE continuerait bien de financer indirectement leurs déficits.
Marie, en France, Bercy anticipe un déficit public proche de 11% du PIB à la fin de l'année. Ce sera inscrit évidemment dans le projet de loi de finances rectificatif qui va être présenté la semaine prochaine en Conseil des ministres. Cette annonce de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui va donc plutôt dans le bon sens pour la France.
Oui, alors ce n'est pas un soulagement pour Bercy. La BCE avait laissé entendre qu'elle augmenterait encore son soutien spécial pandémie, mais c'est bienvenu puisque cela garantit que la dette française, qui va atteindre 120% du PIB à la fin de l'année, continuera de s'écouler sans heurts et à des taux d'intérêt plutôt faibles, voire négatifs. Le projet de loi de finances rectificatif, le troisième, prévoit donc pour 2020 une baisse de l'activité économique de 11%, ce qui a un effet sur les recettes, qui vont être encore plus en baisse que ce qui était prévu dans le précédent projet, 27 milliards d'euros de moins. Moins de recettes et plus de dépenses. Voilà, cela explique que le déficit public passe au-delà de 11%, soit quasi 4 fois le plafond autorisé dans la zone euro avant la pandémie. On retrouve dans ce projet de finances rectificatif les 40 milliards d'euros de mesures sectorielles pour le tourisme, l'automobile et celles qui seront annoncées bientôt pour les entreprises technologiques et de l'aéronautique. Mais on n'y retrouve pas le plan de relance sur lequel l'exécutif pour la rentrée. Ce troisième projet de loi de finances rectificatif ne sera donc sûrement pas le dernier de l'année.
Merci beaucoup Marie Viennot.
Le ministère de l'économie et des finances qui s'attend par ailleurs à une baisse d'environ 10% des dépenses de consommation cette année et qui prévoit, Benoît, la constitution d'une épargne de 100 milliards d'euros.
100 milliards d'euros, oui, épargne dite de précaution pour ceux évidemment qui peuvent épargner. Pour les autres, il faut d'urgence prendre des mesures d'aménagement sur les frais bancaires, demande l'UFC Que Choisir aujourd'hui. En réalité, il s'agirait d'élargir ces mesures qui concernent pour l'instant les ménages les plus précaires. Il faudrait donc, d'après le journal, aller au-delà des annonces ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Écoutez Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir.
Aujourd'hui, Bruno Le Maire il prévoit de favoriser la mise en œuvre du plafonnement global des frais d'incident de paiement pour les personnes fragiles. Donc, selon les banques, c'est autour de 3,3-3,4 millions de consommateurs. Mais il faut bien savoir que ce sont les banques qui ont elles-mêmes les mains sur les critères de fragilité financière. Ça veut dire qu'en fait, très concrètement, eh bien, il y a sans doute beaucoup plus de personnes qui sont objectivement fragiles parmi les ménages en France. Ce qui fait que vous avez certaines banques qui vont décréter que, eh bien, un consommateur n'est pas fragile dès lors qu'il a des revenus supérieurs à 1 000 euros. Et ça, c'est tout à fait inopportun et c'est tout à fait contestable dans la mesure où nous, on va avoir des personnes qui, bah, dans le mois, se voient facturer 500 euros de frais d'incident de paiement et qui, au titre de revenus supérieurs à 1 000 euros, eh bien, n'ont pas le droit et n'obtiennent pas justement une mise au pas de ce frais qui sont importants, qui sont très conséquents et qui n'ont que pour conséquence eh bien, de fragiliser encore davantage les consommateurs. Et avant la crise, c'était déjà un consommateur sur trois qui payait des frais d'incident de paiement et demain, dans la mesure où il va y avoir une hausse du chômage, qu'il y a déjà une baisse des heures supplémentaires, qu'il y a également tout un tas de professions qui sont également en difficulté en raison de la baisse de leur activité, eh bien la fragilité financière elle va être de plus en plus massive pour les consommateurs et des à présent, pour conforter le budget des ménages, il est essentiel que les établissements bancaires jouent leur rôle.
Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir répondait à Hakim Kasmi. Emmanuel Macron et Édouard Philippe réunissent en ce moment syndicats et patronats pour tenter de trouver des solutions pour préserver l'emploi durement touché en France par la récession liée à la crise du coronavirus. Plusieurs rassemblements aujourd'hui devant des hôpitaux publics. Il s'agit pour les manifestants en marge du Ségur de la santé de réclamer plus de moyens pour les soignants. À Paris, entre 200 et 300 personnes, dont des infirmiers et des médecins en blouse blanche, se sont réunis devant l'hôpital Robert Debré, au cri notamment de Ségur imposture. Prochaine journée d'action nationale pour l'hôpital à l'appel de 10 syndicats et collectifs hospitaliers le 16 juin. La date a été confirmée aujourd'hui.
Les salariés d'un journal, un de plus, le Parisien, sont inquiets. Ils sont inquiets pour leurs éditions locales.
Sur fond de pertes financières et de baisse des ventes, à cause évidemment de la crise sanitaire, là encore, la direction du quotidien envisage d'en finir avec les éditions départementales du journal. Il y en a 9 pour les départements de l'Île-de-France et pour le département de l'Oise. D'après les syndicats, la direction veut regrouper toutes ces éditions au sein d'un seul cahier régional. Comme c'est le cas d'ailleurs depuis le début du confinement, beaucoup de salariés y voient évidemment une menace pour l'emploi. Ils refusent ce plan et se mobilisent. Explication de Maxime Tellier.
Ils étaient une centaine de salariés ce matin rassemblés devant le siège du Parisien dans le 15e arrondissement de Paris pour dire non au projet de la direction et réclamer le retour immédiat des cahiers départementaux. Ce lien avec le terrain est primordial pour Émeric Renoux, délégué du SNJ, le syndicat national des journalistes au Parisien.
C'est grâce au travail de local que, par exemple, le Parisien était le premier à parler du mouvement des Gilets jaunes à travers la pétition qui avait été initiée dans le Val-de-Marne pour dénoncer la hausse des carburants, par exemple. C'est grâce aux rédactions locales qu'on a pu se rendre compte de l'affolement du nombre de décès dans les EHPAD au moment de la canicule en 2003. Des exemples comme ça, il y en a plein. Si on perd cet attachement au terrain, on risque de perdre ce type de remontée d'infos. C'est la crainte des salariés parisiens aujourd'hui.
Et dans une lettre ouverte, les salariés insistent sur un retour des éditions locales avant le second tour des municipales prévu le 28 juin. Mais la direction s'y refuse et présentera son projet le 16 juin sur fond de baisse des diffusions. Moins 30% en kiosque en avril et de pertes financières, un 36 millions d'euros pour le groupe Le Parisien Les Échos, propriété de LVMH depuis le début du confinement. Réunis en AG cet après-midi, les salariés n'ont pas voté la grève reconductible, mais ils ont lancé une pétition sur change.org et appelé les élus locaux à se mobiliser pour que les 13 millions de franciliens ne perdent pas leur seul titre de presse régionale.
Explication de Maxime Tellier. La crise du Covid-19 sur le plan sanitaire. Maintenant, le syndicat des médecins généralistes MG France publie sa quatrième enquête Covid. Il s'agit d'un questionnaire auquel ont répondu 1725 praticiens pendant la semaine du 25 au 31 mai. Une enquête qui permet de vérifier que ces médecins reçoivent de moins en moins de malades atteints de la maladie, du Covid-19. La situation sanitaire s'améliore donc incontestablement. Tara Schlegel, même si les généralistes soulignent que le virus n'a pas encore disparu en France.
En moyenne, comme depuis le début du déconfinement, les médecins généralistes reçoivent 2,5 patients par semaine présentant des symptômes inquiétants, ce qui est donc relativement peu. Mais le chiffre le plus intéressant, c'est le nombre de tests prescrits qui s'avèrent positifs. 5,6% des suspects étaient bien porteurs du SARS-CoV-2 la semaine du déconfinement, autour du 11 mai. Ils sont 3,1% 15 jours après. Ça baisse donc, mais ça fait quand même, quand on extrapole à partir des quelques 150 000 malades reçus par les généralistes, 4600 patients Covid avérés. Et ce, dans tout le pays, souligne Jean-Christophe Nogrette d'MG France.
On a étudié tous les départements et même la célèbre Creuse, qui est connue pour être un désert absolu, il y a des cas de Covid.
Voilà pourquoi la vigilance demeure essentielle, renchérit le président du syndicat, le docteur Jacques Battistoni.
Il ne faut pas qu'on baisse la garde, hein, même si le virus circule beaucoup moins. On a tous envie, effectivement, de crier, de siffler la fin de l'épidémie. Aujourd'hui, on se retrouve dans la situation d'avant. D'avant l'épidémie, la situation du mois de février, mais au mois de février, les choses ont évolué très vite. À un moment donné, on n'avait pas de patients hospitalisés et quelques semaines après, on déclenchait l'alerte, la crise sanitaire et on était tous confinés. Donc on sait que ça peut aller très vite.
Il faut donc continuer à tester et isoler les malades le plus rapidement possible et inciter la population à rester très prudente.
T'arraches les gueules.
Les services sociaux et la justice ont failli, entre guillemets, à protéger la petite Marina, morte en 2009 à l'âge de 8 ans sous les coups de ses parents. C'est ce qu'estime en tous les cas la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de condamner la France pour ne pas avoir pris des mesures suffisantes malgré un signalement.
Marina, maltraitée par ses parents depuis son très jeune âge, manquait souvent l'école, elle a été couverte de blessures, mais malgré un signalement et des suspicions à l'époque, son dossier avait été classé sans suite. Peu de temps après, en 2009, elle est morte effectivement à l'âge de 8 ans des sévices infligés par ses parents. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, donc, la petite fille n'a pas été suffisamment protégée par l'État. Et cette décision est évidemment un espoir pour les défenseurs de la petite enfance. Margot Delpierre.
À la lecture de l'arrêt, c'est un mélange de joie et de soulagement pour les deux associations de protection des enfants qui portaient cette affaire depuis 5 ans. C'est la première fois que la Cour européenne condamne la France en la matière, rappelle Grégory Thuan dit Dieudonné, avocat de l'association Innocence en danger.
Donc c'est une leçon, je pense que c'est comme cela qu'il faut voir les choses. J'espère que cela aura un impact positif sur les services de l'État concernés, en particulier les services du parquet, et puis à l'encontre aussi des services sociaux. Donc des conseils départementaux. Puisque l'un des problèmes en France que l'on a, c'est cette multiplication d'acteurs qui ont tendance un peu à diluer le niveau de responsabilité, les uns se lançant ou se relançant la responsabilité vers les autres.
La Cour estime que la France a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit la torture et les traitements inhumains, mais ce n'est pas suffisant, estime l'avocat.
La Cour a choisi, elle, de requalifier juridiquement le dossier en estimant que l'essentiel des questions posées dans cette affaire concernait les mesures prises ou non prises par l'État pour prévenir les mauvais traitements subis par cet enfant. Selon moi, la question essentielle était bien le risque réel et immédiat pour Marina Sabatier sur sa vie et non pas uniquement sur les mauvais traitements.
Il a 3 mois pour faire une demande de renvoi devant cette fois la grande chambre de la Cour européenne.
Voilà, les parents avaient eux été condamnés en 2012 à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Sarthe. En Libye, les choses évoluent, le front bouge et les forces du gouvernement libyen d'Union nationale qui siège à Tripoli ont déclaré aujourd'hui avoir repris le contrôle total de la capitale et de sa banlieue. La région était assiégée depuis plus d'un an par les hommes du maréchal Haftar, une annonce qui intervient après une série de succès militaires et notamment après la prise de l'aéroport international de Tripoli mercredi. Les explications de Marwaman.
Les habitants de Tripoli sont soulagés. Ils s'étaient habitués, tant bien que mal, à vivre la peur au ventre, avec le fracas des bombes au loin, avec ces roquettes tirées aveuglément par les combattants du maréchal Haftar. Jalal Archaoui, chercheur spécialiste de la Libye.
L'armée de Haftar n'était pas simplement en train de mener une guerre militaire contre des adversaires militaires. Elle a lancé des roquettes sur des zones résidentielles, sur de l'infrastructure civile, d'une manière tout à fait quotidienne. Cette espèce de carnage a pris fin aujourd'hui.
L'étau autour de la capitale s'est enfin desserré. Une première depuis plus d'un an, une situation militaire qui a basculé en faveur du gouvernement de Tripoli, reconnu par les Nations Unies et surtout soutenu par la Turquie, membre de l'OTAN, alors que le maréchal Haftar peut compter sur l'aide de la Russie, des Émirats Arabes Unis et de l'Égypte. Patrick Hamzadeh, ancien diplomate en Libye et chercheur indépendant.
L'Europe ressort encore une fois affaibli et discrédité sur cette affaire libyenne. Le gouvernement de Tripoli ne s'est pas tourné vers Istanbul par idéologie, hein, il s'est tourné par dépit, aller de défaite en défaite, et se sentait totalement lâché par la communauté internationale.
Les combats vont désormais se déplacer plus au sud de la capitale et très probablement plus à l'est, en direction des terminaux pétroliers contrôlés par les forces du maréchal Haftar.
Omar Waman. Et si les énergies fossiles et carbonées étaient en train d'arriver à leur pic et à leur déclin final, c'est ce que pense le think tank spécialisé Carbon Tracker. Dans une analyse publiée aujourd'hui, ces experts estiment que l'épidémie mondiale de Covid-19 pourrait accélérer un processus, quoi qu'il en soit, inévitable. Le recul de la demande, les risques croissants pour les investisseurs, ajoutés aux prises de conscience du risque environnemental, pourrait faire que ce pic ait finalement déjà été atteint. Retour au calme et au sec, demain près de la Méditerranée, partout ailleurs ce sera nuages et pluie d'après les prévisions de Météo France. Les températures resteront stables demain, de 7 à 18 degrés le matin pour les minimales, de 15 à 27 degrés dans l'après-midi pour les maximales.